I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et on se retrouve comme d'habitude pour discuter d'une année de ciné en particulier. Mais une fois n'est pas coutume, un épisode un peu différent aujourd'hui, plus resserré, plus illustré et pas d'invité pour m'accompagner. Un format un peu exceptionnel pour une année malgré tout passionnante, 1925. Au sommaire, Charlie Chaplin, un péplum épique du cinéma de propagande et le portrait de l'une des femmes les plus importantes d'Hollywood. Bref, c'est parti pour Année Lumière, épisode 6. Georgia Brown de Ben Bernie, c'était ça le hit musical de cette année 1925. Mais 1925, c'est également les sixièmes victoires de la tenniswoman française Suzanne Lenglen, à la fois à Roland-Garros et à Wimbledon. Mais aussi des événements moins joyeux, comme la dissolution du Parlement italien par Benito Mussolini et sa proclamation en tant que dictateur de l'Italie le 3 janvier, et la publication le 18 juillet du livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf, originellement intitulé « Mon combat, 4 ans et demi de lutte contre les mensonges, la stupidité et la couardise », et qui pose les bases idéologiques du nazisme avec les conséquences que l'on connaît. Mais 25, c'est bien sûr et surtout aussi du cinéma, et on est là pour ça. Alors pas encore d'Oscar ni de Palme d'Or en 25, mais pour mon premier thème, j'ai décidé de vous emmener dans un pays où la révolution se passe aussi bien dans la rue que sur l'écran. Mettez vos chapkas, direction la Russie. Vous l'aurez bien sûr reconnu, l'International, le chant écrit par Eugène Potier en 1871 sur une musique composée par Pierre de Jeffer 17 ans plus tard et qui est devenu le symbole et l'hymne des luttes sociales à travers le monde. La version russe que on vient d'entendre a même été l'hymne national de l'URSS de 1922 à 1944. Mais pourquoi, vous allez me dire, pourquoi cette musique ? Eh bien parce qu'en 25, le cinéma s'apprête à connaître un tournant majeur grâce à un film qui est le sujet de notre premier thème, Le cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein. Potemkin, c'est forcément un nom qui résonne aux oreilles tant le film est devenu culte. Alors Potemkin, qu'est-ce que c'est ? C'est un film réalisé donc par un jeune Sergei Mihailovitch Eisenstein de seulement 26 ans, rendez-vous compte, qui raconte la mutinerie du cuirassé Potemkin du 14 juin 1905 dans le port d'Odessa, dans l'actuelle Ukraine. Cette mutinerie, qui s'est passée dans le contexte de la révolution russe de 1905, est violemment réprimée jusqu'à la population civile et restera même un traumatisme assez profond dans la population russe. Mais pour bien parler du cuirassé Potemkin et de la révolution ciné qu'il a créée, il est bon de redonner un tout petit peu de contexte sur la Russie et le cinéma à ce moment précis. 8 ans avant, 1925, en 1917, la révolution russe menée par Lénine et ses bolcheviks va mettre fin à l'empire du tsar Nicolas II. Si vous avez vu le film d'animation Anastasia, par exemple, vous avez déjà une petite idée des événements. Évidemment, dans Anastasia, c'est évidemment romancé et allégé. Dans la réalité, c'est beaucoup plus violent et macabre. Mais du coup, les bolcheviks arrivent au pouvoir et doivent reconstruire une Russie qui est composée de 130 millions d'habitants, tous très différents, qui va donc de la Russie occidentale, slave, etc., qui va jusqu'à la Chine et l'Asie, et jusqu'au pays du Kazakhstan, en Mongolie, donc plein d'habitants et plein de peuples et de cultures différentes, et donc des habitants tous très différents, et pour la majorité, pauvres et peu éduqués. Et donc ils comprennent très vite que l'outil parfait pour réunir tous ces gens qui ne parlent pas la même langue, c'est le cinéma. Un cinéma qui va devenir donc l'outil majeur de la construction de cette nouvelle Russie. Un outil si important que la Russie devient, en 1919, donc 2 ans après la Révolution, le premier pays à créer une école de cinéma, avant la France, avant les États-Unis. Une école de cinéma qu'on appelle donc l'Institut supérieur cinématographique de Moscou, ou VGIK, on l'appelle aussi VGIK. Une première école donc de cinéma mondial, bien sûr, qui a pour objectif de produire des films de propagande, et donc de produire un cinéma nationalisé, avec beaucoup de moyens, bien produit, etc., mais censuré, et forcément un cinéma de propagande. L'URSS, avec le temps, va être l'opposant majeur des États-Unis, mais ce qui est drôle avec le cinéma soviétique, c'est qu'il prend son inspiration de base, sa référence de l'époque, c'est les superproductions américaines, notamment de D.W. Griffith, qui est un réalisateur de films comme Intolérance et Naissance d'une Nation, et qui est un petit peu le James Cameron de l'époque. Donc sa référence du cinéma soviétique à l'époque, c'est le cinéma américain. C'est un peu l'ironie de l'histoire. Mais en plus d'utiliser le cinéma comme outil de propagande, les Russes vont réfléchir autour du médium cinéma et des possibilités du cinéma qui, je le rappelle, à l'époque n'a même pas encore 30 ans. Ils vont se rendre compte que la facette la plus importante du cinéma, au-delà du cadre, au-delà même de l'histoire, c'est le montage. Il faut voir qu'à l'époque, le montage a principalement des fonctions narratives. Alors effectivement, on va avoir des films qui vont pousser l'outil plus loin, mais le montage reste à l'époque, on est toujours à l'époque en train de raconter soit des courses-poursuites, soit des gens qui changent de pièce. On est dans des séquences, par exemple, de trains qui arrivent, de gens sur les voies, donc il y a du suspense qui se crée avec ce montage alterné. Il y a des petites choses de montage parallèle qui se créent à droite à gauche, bien sûr, mais on est encore, mine de rien, dans un montage avec une pure fonction narrative. L'idée que le sens d'une image ne vient plus seulement de la composition de celle-ci ou de l'intérieur donc de l'image, mais aussi et surtout du montage, et que deux images très différentes collées les unes aux autres peuvent créer un impact visuel fort, un sens nouveau, et même raconter un discours, tisser un discours politique et idéologique, ça va être les Russes qui vont l'amener de manière assez impactante dans l'histoire du cinéma. C'est ce qu'on appellera plus tard le montage des attractions. Par exemple, on a dans le Cuirassé Potemkin ce plan d'un prêtre manipulant, jouant avec sa croix, collée à celle d'un militaire caressant le pommeau de son sabre. Et du coup, ça passe immédiatement l'idée que le clergé et le pouvoir militaire ne font qu'un. Et c'est ça le montage d'attractions. C'est qu'effectivement, le montage va être un outil majeur pour façonner une idéologie donc communiste soviétique de l'époque et repousser encore plus les limites du cinéma à l'époque. Bref, pour en revenir au film lui-même, le Cuirassé Potemkin, il sort donc en 25, et il sort pas en 25 pour sortir en 25, il sort en 25 pour la célébration donc des 20 ans de cette première révolution russe de 1905, une célébration rêvée donc pour mettre en avant cette nouvelle Russie, pour fabriquer cette nouvelle Russie. Alors le Cuirassé Potemkin, c'est un film qui est relativement court, hein, si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc c'est un film russe, muet, bien sûr, donc ça peut être un peu rébarbatif, mais il est très court, enfin il est plutôt court pour ce qu'il raconte, puisqu'il fait 1h15 seulement, et malgré ça, il aura un impact phénoménal à sa sortie, et dans le monde entier. Et le film va être l'un des plus grands tournants artistiques du XXe siècle, et va vraiment faire passer un cap et bouleverser le médium cinéma, de la même manière que le fera plus tard le son, la couleur ou la 3D, et va inspirer des cinéastes du monde entier au passage. Il a même été longtemps considéré comme l'un des meilleurs films tout simplement de tous les temps, et il est toujours vu, encore en 2019, comme le plus grand film de propagande de l'histoire, donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à vous jeter dessus, d'autant que le Cuirassé Potemkin a eu le droit récemment à une réédition en Blu-ray, dans un magnifique steelbook avec moult documentaires, moult bonus et donc une édition magnifique. Le Cuirassé Potemkin reste bien sûr célèbre pour une scène en particulier. Si vous êtes un petit peu cinéphile, vous avez forcément entendu parler de cette scène. C'est cette scène culte des escaliers d'Odessa. Dans cette scène, les habitants de la ville dévalent ces escaliers alors qu'ils se font tirer dessus par des soldats qui sont en haut de l'escalier. Une scène qui compte notamment cette fameuse image d'un bébé dans un landau descendant les marches sans que personne ne l'arrête. Une scène mythique qui a été reprise à de nombreuses fois, que ce soit par Alfred Hitchcock, Woody Allen, Terry Gilliam dans Brasil, Brian De Palma dans Les Incorruptibles, bien sûr, elle est très connue, la série Les Simpsons, et puis même dans Star Wars, La Revanche des Sith, il y a dans un ou deux plans un rappel à ces escaliers, cette fameuse scène des escaliers d'Odessa, donc une scène culte d'un film russe muet de 1925, et franchement, qu'un film russe et muet de 95 ans soit parvenu à devenir une référence de pop culture et qu'ils soient encore cités de nos jours, c'est quand même sacrément formidable, et moi je trouve ça plutôt très 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 cool. Donc n'hésitez pas à découvrir ou à revoir le cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein. J'espère que je vous ai donné envie de voir ce film qui a été au cœur de notre premier thème qui touche doucement à sa fin. Sans attendre, on passe tout de suite à notre deuxième thème de cette année 1905. Elle n'est pas très très connue de notre côté de l'Atlantique, mais cette comptine que vous venez d'entendre, c'est un classique aux États-Unis, et elle est même à l'origine du film de notre second thème, Little Annie Rooney, soit La Petite Annie en français, qui est donc un film de 1925 et un des succès de l'année d'ailleurs, notamment grâce à sa tête d'affiche, l'actrice Mary Pickford, l'une des femmes les plus importantes du cinéma américain, rien que ça. La Petite Annie, c'est une histoire assez simple, assez amusante, ça raconte l'histoire donc d'Annie Rooney, qui est une gamine des rues et aussi la fille d'un policier au passage. Ce père policier est tué lors d'une bagarre de gang et le frère d'Annie veut le venger en tuant celui qu'il croit par erreur être le meurtrier mais qui s'avère être l'amoureuse de la petite Annie. Cette dernière va donc essayer de prouver son innocence en évitant les gangs et tout ça avec l'aide des enfants des rues. Donc c'est un espèce de mélange de films de gosses, d'enquête policière, de films de gangs. L'histoire de la création de ce film est intéressante parce qu'elle est directement indissociable de la carrière de Mary Pickford à cette époque-là. Au début des années 20, par exemple, Pickford est l'une des femmes les plus puissantes d'Hollywood. Elle vient de fonder la société de production United Artists avec Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks et D.W. Griffith, donc le grand réalisateur dont on a parlé dans le premier thème, qui était un peu, je le rappelle, le James Cameron, on va dire, des années 1910. Donc, elle fonde United Artists avec Chaplin, Fairbanks et Griffith. Et c'est une société, United Artists, qui produit encore, d'ailleurs, 100 ans après, encore, et toujours des films aujourd'hui, comme par exemple le récent Creed 2, c'est un film United Artists, ou même le prochain James Bond, No Time to Die, c'est un film qui va être produit par United Artists, société de production donc fondée, notamment pas Mary Pickford. Mary Pickford est donc devenue même la première femme à l'époque à gagner plus $1 million par an, notamment grâce à ses rôles de gamine débrouillarde pour laquelle elle était connue, ce rôle assez récurrent de gamine un peu débrouillarde et de petite fille qui l'ont rendue célèbre. Au début des années 20, elle vient d'avoir 30 ans, mais son visage d'enfant est justement super populaire dans ces rôles-là. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on peut dire la gamine préférée de l'Amérique. Sauf qu'en 25, Pickford sort de plusieurs rôles plutôt sérieux qui n'ont pas beaucoup de succès. Suite à ses échecs au box-office, elle demande carrément, par voie de presse, dans un journal, à ses fans, tout simplement, quel rôle ses fans voudraient la voir jouer. Et elle reçoit 20 000 réponses. Alors, il faut se rendre compte qu'en effectivement, au début des années 20, recevoir 20 000 réponses, alors déjà aujourd'hui, c'est beaucoup. Alors, imaginez, au début des années 20, recevoir 20 000 réponses après une annonce dans un journal, c'est phénoménal. Et ces 20 000 réponses plus tard, c'est finalement du coup le personnage de la comptine Little Annie Rooney qui sort vainqueur de ce grand sondage et qui deviendra du coup, qui est choisi donc par Mary Pickford pour devenir son prochain rôle qui va marquer son retour à un vrai succès populaire parce que le film va plutôt pas mal marcher. Le film d'ailleurs est un vrai, vrai grand plaisir. Donc moi, je suis sûr, j'ai dû le voir pour préparer cette émission. Et c'est un vrai, très, vrai, vrai grand plaisir. Il commence par imaginer une immense scène de bagarre de rue entre gosses, dans des décors mais immenses et assez dingues. Alors imaginez bien 40 gamins qui se balancent des pavés à travers la gueule et des objets en tout genre dans une reproduction d'un quartier du Bowery à New York. Donc imaginez ces grandes barres d'immeubles et au milieu donc une cour ouverte avec des gamins qui se balancent des trucs à travers la gueule, donc c'est plutôt fun. Et donc dans Joyeux Bordel, on a Mary Pickford qui est donc cette gamine à bouclette qui ne se laisse pas faire et qui renvoie carrément les coups. Et je vous avoue que voir une femme qui a 32 ans à l'époque jouer une gamine qui a 12 ans et se battre contre des enfants, c'est juste hilarant à voir. Donc rien que pour ça, ça peut effectivement valoir le coup de jeter un œil à ce film-là qui est vraiment un très très beau film et même assez divertissant et encore très très efficace de nos jours. Le film est du coup même super intéressant parce qu'il se concentre aussi sur, par exemple, l'aspect cosmopolite de New York. Tous les gamins, par exemple, viennent de cultures différentes. On va avoir un gamin qui va être irlandais, donc Annie et son frère sont irlandais. On va avoir un italien, on va avoir un grec, un juif, un asiatique, un africain, etc. etc. Et même les cartons, ces cartons qu'on peut voir dans les films muets, qui en général mettent en face sur une phrase choc ou sur un événement, on va avoir des cartons qui parfois apparaissent en langue étrangère. Par exemple, on a une scène où il y a une mère grecque qui est à la fenêtre et qui appelle son fils qui est en train de se battre dans la rue. Et ce qu'elle dit apparaît en alphabet cyrillique, donc nous, évidemment, si on ne parle pas grec, on ne le comprend pas. Mais du coup, c'est ça, même les cartons marquent cet aspect cosmopolite et tout ce mélange de cultures. Plus tard, on aura même une scène où on a toutes les différentes familles grecques, italiennes, africaines, asiatiques, etc., etc., qui viennent dans la maison du papa d'Annie Rooney pour se plaindre de la bagarre qu'il y a eu dans la journée. Donc on a cette famille, en fait, où tous les parents font un peu la même chose et tous les parents râlent sur leurs gosses et qu'en fait, finalement, tous les gosses font les mêmes conneries malgré leur culture différente, etc. Donc c'est extrêmement drôle. Et ce deuxième thème, et parler de ce film, pour moi, est aussi, du coup, l'occasion de parler de Mary Pickford et de vous passer ce petit extrait sonore de la remise de son Oscar d'honneur en 1976. Mary Pickford a alors 84 ans.
You made me very, very happy. And thank you.
Well, it's nice to see another, isn't it?
It certainly is.
He hasn't changed very much in all this time, has he?
Well, I hope not.
No, he hasn't. He hasn't. There have been a lot of him made, and a lot of marvelous actors and actresses have won him. And it's only proper that finally he's come back to you again.
Well, it's very nice to be able to thank them all, and especially you. Thank you.
Donc Mary Pickford, au moment où elle reçoit cet Oscar d'honneur en 76, à 84 ans. Elle décédera 3 ans plus tard, d'ailleurs, après ce moment. Je vous invite à regarder la vidéo de cet Oscar d'honneur sur YouTube, parce qu'on découvre simplement une Mary Pickford, bien une vieille dame, une dame âgée, pour laquelle ils ont mis en place un dispositif pour lui remettre son Oscar directement chez elle, pour éviter de la déplacer, bien sûr. Et c'est émouvant de voir cette ancienne star de la Paramount, celle qui a tourné plus de 200 films en 10 ans, celle qui a été du coup l'une des femmes les plus importantes d'Hollywood, la fondatrice des studios United Artists, on l'a dit, aux côtés de Chaplin, être finalement si humaine et touchante. Donc je le rappelle, Pickford est l'une des femmes importantes de l'histoire du cinéma, et Little Annie Rooney, le film dont on a parlé, peut être l'occasion de la redécouvrir, ou de la découvrir simplement. D'autant qu'en 2021, ce film-là sera, ainsi que tous les autres films américains sortis en 25, tomberont dans le domaine public et seront donc accessibles à tous. Donc vous avez vraiment plus aucune excuse pour découvrir Little Annie Rooney et découvrir Mary Pickford par la même occasion, une grande dame, une grande femme du cinéma et de l'histoire du cinéma. Voilà qui conclut ce deuxième thème, qui est également passé assez vite. Bien sûr, quand il n'y a pas d'invité avec moi, les thèmes passent nettement plus vite. Épisode d'Année-Lumière un peu spécial et donc plus court ce mois-ci, mais ça ne va pas m'empêcher de vous emmener pour un petit tour du monde, comme d'habitude, pour évoquer plus brièvement quelques films importants de cette année 1925. Un tour du monde qui ne peut commencer que par une seule personne, parce que comment parler de 1925 et ne pas parler de Charles Chaplin, bien sûr. En 25, Chaplin sort son troisième long-métrage, La Ruée vers l'or, qui raconte donc les aventures de Charlot au cœur de La Ruée vers l'or du Klondike, un événement qui s'est donc déroulé de 1896 à 1899, et où plus de 30 000 personnes se sont précipitées dans le nord-ouest canadien à la recherche d'or, puisqu'on avait trouvé un filon. Au final, il n'y a que 4 000 personnes de ces 30 000 qui, au final, trouveront de l'or, ce qui est quand même un joli ratio. À cette époque, alors, Chaplin a connu un immense succès en 21, donc 4 ans avant avec Le Kid, son premier long-métrage, on va dire, mais aussi un gros échec avec L'Opinion publique 2 ans plus tard. C'est aussi le seul dans lequel il ne joue pas lui-même. C'est un film qui est véritablement mineur dans sa carrière. Il a donc besoin, en 25, d'un succès assez vite, mais c'est une époque où Chaplin... c'est une époque compliquée pour lui, parce qu'il a donc des problèmes assez personnels, mais c'est aussi une période où il n'a plus vraiment d'idées, et il est un peu en panne sèche. Il raconte d'ailleurs dans son autobiographie comment il a eu l'idée de La Ruée vers l'or, et du coup comment il était en panne sèche, et comment il était chez son ami Douglas Fairbanks, quand il tombe sur une photo d'une cordée d'hommes tentant de passer un col enneigé pendant La Ruée vers l'or, et il s'est trouvé tout de suite fasciné par l'histoire improbable de cette ruée vers l'or, par le cadre atypique, et tout de suite lui sont venues en tête des possibilités de gags à l'appel infini, etc., etc. Donc c'est comme ça que lui est venue simplement l'idée de la ruée vers l'or en regardant une photo chez son pote. Thème, le sujet était loin d'être un sujet évident pour Chaplin, parce qu'il y a eu c'est un thème ou un événement qui a eu des morts, il y a eu de la souffrance, il y a eu des meurtres et du cannibalisme, donc tout plein de problèmes qui arrivent en général du coup quand il y a de l'or en jeu avec l'espèce humaine. Mais Chaplin a une sensibilité particulière qui est encapsulée dans son personnage Triste de Charlot, c'est-à-dire qu'il tire son humour des situations les plus dramatiques. Charlot, par exemple, est un personnage résolument dramatique. C'est un vagabond qui est dans la rue, qui sait pas où dormir, qui sait pas quoi manger, mais pourtant, c'est lui qui va être la source de nombreuses situations drôles et de nombreux rires. J'en profite pour vous citer une citation de Chaplin dans son autobiographie que je vous conseille de lire. Chaplin dit que dans la création de la comédie, c'est paradoxal que la tragédie stimule à ce point-là l'esprit de ridicule. Parce que à cause du ridicule, il suppose lui-même hein, qu'on a une attitude de défiance. On n'ose pas du coup poser le ridicule sur une situation dramatique. Mais lui, il rajoute que l'on doit rigoler de notre désarroi, de notre misère. On doit rigoler face à cette misère, face à ce qu'il raconte comme étant les forces de la nature. Parce que si on rigole pas et qu'on trouve pas un peu de rire dans le drame, on devient fou. Donc effectivement, on va dire que la ruée vers l'or, cette fameuse manière de tourner un événement qui était quand même effectivement dramatique en l'un des films les plus drôles de Charles Chaplin, c'est aussi la marque d'un génie comme Charles Chaplin et d'un homme avec une sensibilité particulière. Vous n'avez peut-être pas vu la ruée vers l'or de Chaplin, mais vous avez forcément vu ou entendu parler de la scène où Charlot mange sa chaussure, ou celle où il se change en poulet géant, où il se transforme en poulet géant parce que son camarade de chambré a tellement faim qu'il le voit en poulet géant et qu'il lui donne faim. Ou même cette scène où il va faire danser les petits pains, hein, où il va planter des fourchettes dans deux petits pains et il va en faire des jambes et des pieds et il va danser avec ces petits pains-là. La fameuse danse des petits pains, c'est forcément des scènes dont vous avez entendu parler. Donc c'est un bonheur de film, véritablement, et qui est visible gratuitement sur Internet et partout ailleurs, car il est tombé dans le domaine public dès 1953, tout simplement parce que Chaplin a oublié à l'époque de renouveler son copyright sur le film. Tant mieux pour nous. La ruée vers l'or est d'ailleurs le film pour lequel Chaplin aimerait être remémoré le plus de sa carrière. À quel point c'est un film à voir absolument. 1925, c'est aussi l'année d'un autre film notable, Le Bénur de Fred Niblo. Alors, on connaît tous bien sûr le film de 1959 avec Charlton Heston, mais cette version de 25, plus ancienne, est tout aussi impressionnante. Pourquoi je vous en parle? Simplement parce que Le Bénur de Fred Niblo, avec ses 3,9 millions de dollars de budget à l'époque, est le film tout simplement le plus cher du cinéma muet. Il restera d'ailleurs le film le plus cher de l'histoire du cinéma tout court jusqu'en 1939, où il sera détrôné d'un cheveu, 400 000 dollars à peine, par Autant on emporte le vent, tout simplement. Je vous conjure d'ailleurs d'y jeter un œil, simplement parce qu'il y a des décors phénoménaux qui dépassent le cadre dans tous les sens, en hauteur, en largeur, et les décors sont sublimes, et ils ont vraiment rien à envier, par exemple, à un Metropolis de Fritz Lang qui sortira 2 ans plus tard, et qui est tout aussi surprenant et hallucinant. Bénur, c'est aussi 100 000 figurants, c'est une séquence de bataille navale dingue, donc en 25, c'est aussi une hallucinante scène de course de chars, tout comme dans le film de 59. Bon, si vous trouviez que celle du film de William Wyler de 59 était impressionnante, bah celle-là va vous bluffer, et tout ça, je le rappelle, réalisé en 1925, 30 ans tout juste après la naissance du cinéma. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, vous allez être estomaqué de voir qu'en 25, il y avait un Bénur avec des moyens et une ambition visuelle folle comme celle-ci. 1925, c'est aussi en vrac, l'année du Monde Perdu, le film Le Monde Perdu de Harry Hoyt, où des dinosaures animés image par image se battent devant des aventuriers médusés, et qui est donc une référence de Spielberg pour Jurassic Park et sa suite, elle aussi du coup intitulée Le Monde Perdu. 1925, c'est encore l'année du fantôme de l'opéra, incarné par l'immense et polymorphe acteur Lon Chaney. D'ailleurs, c'est le tout premier, hein, l'acteur, le fantôme de l'opéra, c'est le tout premier Universal Monsters, bien avant Dracula, Frankenstein ou même le loup-garou, qui arrivent, eux, dans les années 30, donc c'est forcément culte. Et ça vient de 1925 aussi. Enfin, 1925, c'est aussi en vrac l'année des Rapaces de Eric von Stroheim, l'année de La rue sans joie de Pabst, du premier film solo de Jean Renoir, La jeune fille de l'eau, d'un Alfred Hitchcock, Le jardin du plaisir, de 3 films de Buster Keaton, ou encore de La Grande Parade de King Vidor. Bref, là encore, une immense année de cinéma que nous n'avons pu bien sûr qu'effleurer ici. Bref, voilà un bien beau tour du monde qui conclut ce 6e épisode d'Année Lumière. Si cet épisode vous a plu et si Année Lumière vous plaît, n'hésitez pas donc à le partager et à en parler sur les réseaux. C'est toujours un grand plaisir d'avoir vos retours. Merci à vous tous de m'avoir laissé emprunter vos oreilles. N'oubliez pas de voir des films et moi je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode d'Année Lumière. Salut !